écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom.
Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Nous sommes avec l'homme que l'on nous présente plus, Mustapha Al-Qadili. Salut Mustapha.
Bonjour.
Et tu es convoqué aujourd'hui pour nous raconter l'histoire des Beni Hillel. Alors on dit Beni Hillel, Benou Hillel, ça dépend comment elle est, Salofa. Les Hillel, hein, parfois en français. Bref, les tribus bédouines de la péninsule arabique qui sont installées dans le nord de l'Afrique, vers chez nous, au milieu du XIIe siècle. Apparemment, une épopée très impactantes puisqu'ils ont arrivé nombreux, ils ont modifié la démographie de chez nous, la culture éventuellement, et on a besoin d'éclaircissement sur ce point. Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus ?
Bah, d'abord, je suis convoqué, donc j'ai pas le choix. Ensuite, vous me poussez à réviser mes classiques, je vous remercie beaucoup, parce que bon, on a dit classiques, et puis parmi les meilleurs, on parle d'Ibn Khaldoun, qui est une référence assez très importante pour cette période du Moyen-Âge, en tout cas jusqu'à la période Mérinide, en tout cas, la période où il a vécu, et du coup, c'est une manière aussi de rafraîchir mes informations, les détails. Il est trop chargé, Ibn Khaldoun. Alors, il n'a rien inventé, Ibn Khaldoun, hein. Il utilise les manuscrits qui ont eu lieu auparavant, qui ont été écrits auparavant, donc il les compile et il essaie également de retenir la bonne information, parce que comme aujourd'hui, je veux dire, c'est pas l'information qui manque, mais comment faire pour retenir la bonne information et essayer de suivre un petit peu
la valider, mettre du sens un peu.
Absolument, et quand il a des doutes, il finit par Allahu A'lam, c'est-à-dire un terme générique peut-être pour nous aujourd'hui, mais qui est son pesant en or dans la bouche de Ibn Khaldoun, parce D'accord. que quand il est sûr, il affirme, il n'y a pas de problème.
Donc, tout ça pour dire, si je comprends bien, que la source principale de ce que tu vas nous raconter, l'homme qui s'est intéressé, qui a compilé les données sur ces Beni Hillel, puisqu'on a décidé de les appeler comme ça dans ce podcast, ça vient de Ibn Khaldoun. Absolument. D'ailleurs, je précise à ceux qui n'ont pas l'image, c'est-à-dire tout le monde, sauf nous, que tu es plongé dans un livre particulièrement épais.
Oui, j'ai un volume.
volume 3. Dis-nous son titre. Hein,
ouais. Il y a plusieurs éditions. Donc ça dépend, des fois ça peut être 6 volumes, 8, 7, etc. Kitab al-Ibar wa diwan al-mubtada'i wal-khabar fi ayyam al-arabi wal-ajami wal-barbar wa man 'asarahum min dawi as-sultan al-akbar.
D'accord.
Le livre des leçons, diwan al-mubtada'i wal-khabar. Alors bon, là où ça commence, là où ça termine, dans les jours, les journées, en tout cas ça renvoie à l'histoire, la notion de temps, des arabes, des non-arabes, l'ajam, et ce qu'on appelle barbare à l'époque, c'est-à-dire, hein, à l'époque, ce n'était pas un terme péjoratif comme aujourd'hui dans la langue arabe, barbare peut signifier également sauvage. À son époque, le mot ne signifiait pas du tout cela. Tumaman asara min dawi sultan al-akbar, c'est-à-dire les grands royaumes qui ont eu lieu auparavant. Donc, du coup, il remonte jusqu'aux Grecs, jusqu'aux anciens Perses, les royaumes d'Israël, les anciens royaumes qui ont eu lieu avant le temps islamique, Sidna Daoud, Sidna Suleiman. Il a essayé de compiler vraiment, de creuser
une œuvre,
et je crois qu'il
très ambitieuse.
Il a utilisé même, bon, il ne cite pas beaucoup la bibliographie, du fois il rapporte Felanadi, etc. Mais je crois qu'il a plongé aussi dans toute la mémoire hébraïque, en hébreu, etc. et chrétienne pour essayer de nous rapprocher de l'ensemble de l'histoire universelle, comme il l'avait dit. Alors ce livre était parmi les premiers que les orientalistes ont traduit en 1859, le baron de Slane à Alger, mais ils ne l'ont pas traduit en entier. Donc ils ont juste sélectionné quelques extraits, mais la grosse partie, si j'ose dire. Et puis depuis, on a une pensée orientaliste basée sur Ibn Khaldoun. Last but not least, notre fondateur de la sociologie, Max Weber, avait lu cette traduction et il a trouvé que c'est un historien quand même assez particulier. Il le considère même comme le fondateur de la sociologie. Parce que Ibn Khaldoun s'intéresse à Ilm al-Umran. Al-Umran, ce qu'on peut traduire par la civilisation, le bâti. Et donc, il s'est intéressé également au commerce, aux industries. Il a été fin observateur. C'est comme une sorte de premier sociologue ou premier anthropologue dans l'histoire qui a fait attention à la vie au quotidien, y compris dans son volet économique, volet culturel. Et il parle de la musique, du chant, de beaucoup de choses, ce qui fait sa singularité dans son temps.
Et une énorme source qui lui a valu, enfin, cette œuvre, une place au Panthéon une statue en Tunisie et des pays qui se disputent, qui se bataillent son héritage, puisque.
Et oui, bon. Voilà, ça c'est. Il a plusieurs identités,
exactement.
Mais il n'y avait pas de.
Il est né Kerawan, il est mort au Caire, il a vécu un petit peu chez les Mérinides, travaillé à Fès.
Il a étudié à Bjaïa.
Voilà, donc bref, c'est un penseur nord-africain, voilà comment on va le dire. Et, voilà, et donc, qu'est-ce qu'il nous dit sur ces Beni Hillel qui nous intéressent aujourd'hui?
Alors, d'abord, il ne s'agit pas que de Beni Hillel uniquement. Il s'agit de Beni Hillel, hein, Beni Souleym, Beni Maqil. D'accord. On a les traces des trois groupes aujourd'hui au Maroc, en Algérie, en Tunisie, même en Égypte. Et ils sont disséminés un peu partout parce qu'il les a suivis à la trace. Alors, ce qui est très important...
On est en 1100 et quelques.
Au 12e siècle, avec l'émergence des Almohades, ils ont battu les Almoravides. Parce qu'il y avait les Almoravides avant, les Almohades ont battu les Almoravides, ils reprennent Marrakech et ils reprennent l'Empire. Jusque-là, ça va. Ensuite, il y a un petit îlot des Almoravides qui continue dans les îles Baléares, il s'appelait Beni Rania.
D'accord, îles Baléares, Ibiza et compagnie.
Ibiza et compagnie, oui, t'es sous domination Almoravide. Et quand les Almohades sont arrivés, il y avait un dernier royaume Almoravide.
Ça a beaucoup changé depuis.
Oui, mais la toponymie est toujours là.
Hein. Oui, c'est
les
vrai,
noms
c'est
des
vrai.
Lieux, les quelques détails, des trucs.
Ils n'étaient pas aussi à Malte, non?
Non, Malte, côté les Tunisiens. Alors là, Hafsid. C'est les Hafsides. Non, d'accord. Avant les Hafsides. Bien avant les Hafsides, ils étaient à Malte jusqu'en Sicile. D'accord. Même le sud de l'Italie, bon, jusqu'à l'arrivée des Normands. Après les Normands, on a eu... les Espagnols, je veux dire, c'est une longue histoire. Mais en tout cas, c'est les fractions d'Isnahaja, d'Imsmoda, etc. de Tunisie qui étaient concernées par Malte et par la Sicile. Les Normands, le roi Roger, etc. arrivent et puis ils chassent tout le monde et puis ils s'installent et puis petit à petit, les chevaliers de Malte pendant la période de la piraterie, etc. après les croisades, je veux dire, c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire. Donc oublions Malte. Donc on a des Almoravides à Ibiza.
Oui, et puis qui sont battus par les Almohades et qui débarquent vers Tunis. Donc ils s'échappent vers Bjaïa exactement. Et il commence à guerroyer entre Bjaïa et Tunis. Au début, Ibn Khaldoun parle des tribus des Sanhaja, comme on avait dit, les trois grands groupes de ce qu'on appelle les Berbères, les Mazirun, les Sanhaja, les Masmouda et les Znata.
Donc là, du sud au nord.
Du sud au nord, du Sahara jusqu'au nord. Là, les Almoravides, c'était les Sanhaja. Les Almohades, c'est les Masmouda. Donc les Masmouda commencent à faire la guerre aux Sanhaja. Les derniers Sanhaja, qui sont les Beni Rania, qui étaient au Balayar et puis qui ont été battus là-bas, qui débarquent à Bouji, ils commencent à faire leur guerre là-bas en essayant d'installer un royaume et bien sûr dans l'objectif de battre les Almohades de nouveau en venant par par l'Est. En même temps, on a une deuxième dynastie locale qui s'appelle Beni Hammad. Également, on a encore la Qal'a d'Ibn Hammad aujourd'hui qui se trouve toujours en Algérie, qui était également un petit royaume qui cherchait à faire, à s'imposer également. Sauf que là, nous sommes dans un contexte où il y a les Almohades qui émergent côté ouest, côté Maghreb, côté Maghreb al-Aqsa, comme on disait, entre le Maroc et l'Andalousie. Et on a les Fatimides qui étaient déjà en Égypte. Et les Fatimides avaient l'Ibn Hillel, Beni Souleym et l'Ibn Omar. Ils les avaient installés à l'est du Nil. Ils leur ont interdit de traverser le Nil.
Bah, ils viennent d'où, ces Beni Hillel et Beni Maqil?
Pourquoi? Parce que les Beni Hillel, Beni Souleym, Beni Maqil, ces groupes étaient des tribus bédouines de l'Beida. Quand on dit les bédouins, normalement, c'est les habitants de l'Beida, une zone saharienne désertique exactement, qui se trouve aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Syrie, la Jordanie. C'est le Beida, c'est un terme géographique. Quand on généralise le mot Bédou, normalement le Bédou appartient à une région qui s'appelle le Beida, les nomades de l'île arabique ou de la presque île arabique. Et bien à l'époque, on avait les Abbasides à Bagdad, les Fatimides au Caire, mais qui dominaient jusqu'à la Syrie, et on avait un mouvement chiite qui s'appelait le Qaramita. Et donc, ils ont émergé, les Karmates, qui challengeaient un petit peu les Abbasides. Et du coup, ils ont réussi même à contrôler les lieux saints, la Mecque, Médine, ils ont détruit la Mecque, ils ont déplacé la Kaaba jusqu'à Bahreïn. Et c'est là que les Fatimides interviennent et mènent la guerre à ces Karmates jusqu'à faire revenir la pierre noire. La pierre noire
qui est la pierre sacrée du Bahreïn
qui revient à Al-Madina. Et là, ils les font venir pour un petit peu les contrôler, ils les font venir en Égypte. Ils les installent dans le Sahara oriental, comme on l'appelle l'Égypte, c'est-à-dire à l'Orient ou à l'est du Nil, parce qu'ils ont un Sahara occidental qui se trouve à l'ouest du Nil. Et là, quand ces Beni Rania et Beni Hammad commencent à bouger, et comme ils étaient des sunnites, ils challengeaient les Fatimides qui sont chiites, ils ont pensé que peut-être le meilleur moyen est de lancer les Beni Hillel, Beni Souleym, Beni Maqil sur ces petits royaumes qui commencent à émerger, qui risquaient de déranger les Fatimides qui se trouvaient en Égypte. Voilà le début, un petit peu, de ce qu'on qu'on va appeler un petit peu Tagriba. Comme dans la littérature orale de ces groupes, on dit Tagriba. Alors, soit ils vont vers l'Arab, vers l'Ouest, soit ils vont devenir Ghuraba également. Il y a un jeu de mots.
Des étrangers.
Des étrangers.
Pour l'exil. C'est un exil vers l'Ouest, quoi. C'est la conquête de l'Ouest.
Il y a déjà un exil, un premier exil de l'Arabie. En bougeant vers l'Égypte, c'est un premier exil. Et puis, bien sûr, ils ne tiennent pas bien parce qu'ils commencent à faire des histoires, des problèmes, à créer de l'instabilité, surtout dans le sud, Saïd, ce qu'on appelle aujourd'hui Saïd de Misr. Ils créent des problèmes, de l'instabilité, etc. Et donc, du coup, c'est là que les Fatimides, peut-être, ont bien calculé en disant une bonne manière de s'en débarrasser. Et c'est là qu'ils arrivent vers Baraa, l'est de la Libye aujourd'hui, et que commencent leurs histoires.
Ils sont combien ces gens-là? J'ai vu sur internet qu'on parle de 200 000 personnes. Est-ce que c'est un chiffre possible?
Aucune statistique valable, parce que même pour les statistiques de la période du Moyen-Âge, des fois j'ai du mal à y croire, parce que quand on calcule par des milliers de têtes qui tombent, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle était la démographie à l'époque? Donc, tout est approximatif, mais en tout cas, ma connaissance en révisant mon Ibn Khaldoun, il ne balance pas de chiffres.
D'accord, il ne balance pas de chiffres, mais c'est une masse d'individus suffisamment importante pour avoir un impact sur l'histoire. Si on fait un... on en parle aujourd'hui, c'est qu'ils ont marqué leur temps.
Oui. Oui, ils mènent la guerre partout où ils passent.
Donc c'est des guerriers.
C'est des guerriers. Pourquoi? C'est des nomades d'abord. Qui
donc
sont
avec des chameaux.
Des chameaux, des dromadaires, qui sont dépossédés d'abord de leur territoire à l'origine. Quand ils arrivent en Égypte, ils essaient de s'adapter au nouvel contexte géographique, qui est restreint parce qu'il y a aussi des nomades en Égypte. Donc ils ne peuvent pas nomadiser comme ils le souhaitent, comme ils le faisaient auparavant dans le Beida, c'est-à-dire tout le désert, l'étendue désertique de l'Arabie qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, quand ils vont vers l'Ouest, il faut chercher pied à terre, c'est-à-dire il faut trouver des ressources. Donc c'est normal. Ils commencent par la conquête, ils rentrent dans des guerres avec les petits royaumes qui sont là-bas. Et Ibn Khaldoun, d'ailleurs, il trouve qu'ils sont semblables aux Zénètes, les Zenata, qui sont également des pasteurs, des nomades ou des semi-nomades.
Donc, Zenata, donc les Amazirs du Nord.
Du Nord, et du coup, il y a une sorte d'alliance parce que les Zenata, ils sont encore dans une situation entre les Snahaja et les Msmoda. Donc, comme une sorte d'alliance qui s'installe entre les deux groupes, et du coup, ils commencent leur raser, si j'ose dire, sur les villes, sur les gouverneurs locaux. Ils battent les uns et les autres, ils battent Bani Hammad, ils battent Bani Rania. Et il commence à rentrer dans le domaine des Almohades et ça crée une instabilité du côté de Stif, aujourd'hui en Algérie, entre Stif, Qairawan, Tripoli, même Tunis n'échappe pas à leur raid, jusqu'à Annaba, Bona, comme il l'appelle Ibn Khaldoun, Constantine d'Algérie, et c'est-à-dire toute la zone orientale aujourd'hui de l'Algérie.
Ibn Khaldoun est dur avec eux, il les compare à
des hordes de criquets.
Des hordes de criquets, voilà,
ouais. Jalad. Ah, Jalad. D'ailleurs, c'est une expression qui revient. Non, et bon, pourquoi? Parce que c'est du nomade. Lui, il est citadin, Ibn Khaldoun. Alors, s'il a un avis négatif sur les nomades, sur les gens de la campagne en général, sur les pasteurs, bon, parce que c'est un citadin, un homme de science d'abord, qui a fait beaucoup d'études, un homme de pouvoir parce qu'il a travaillé dans le divan, dans le diwan des rois ou du sultan Mérinide, et il apprécie beaucoup le commerce, il apprécie beaucoup l'industrie, il apprécie beaucoup les échanges économiques, il apprécie beaucoup la richesse, il apprécie beaucoup, même si il note que plus on s'urbanise, plus on devient un petit peu pas très solide. Hein. C'est comme ça qu'il explique aussi la fin des empires, parce que tous les empires...
Le ramollissement,
absolument, voilà. C'est le terme exact, de ces gens-là, de la ville, qui sont dans l'opulence, et du coup, ils ne sont plus capables de se défendre et de défendre les États. Du coup, c'est la chute des empires pour qu'un autre empire commence. Alors, je disais, il est divisé en trois, il balance un chiffre à un moment. Par exemple, d'une fraction Ibn Hassan, il les limite à 200 personnes. Il dit le plus petit groupement de ces, etc. Parce qu'on a les Bani Hilal, Bani Sulaim, Bani Maqil, c'est les trois groupements. Hein. Et puis, chaque groupement est partagé en plusieurs fractions tribales. Alors, on a Zorba, on a Jishem, on a l'Riyah, on a l'Khalt. C'est des termes qui existent encore aujourd'hui chez nous au Maroc. On a les Bani Hassan qui se trouvent aujourd'hui au Sahara, même en Mauritanie, au Mali. Dans des fractions, sous-fractions, on peut trouver plein de termes comme les Brabish qui sont par exemple au Mali, à Ben Grir, peut-être ailleurs, en Algérie ou en Tunisie. Donc, ça nous donne les trois grands groupements divisés
en petits groupements
et qui sont... comment dirais-je, ce conglomérat de gens. Alors, il ne faut pas oublier que quand j'ai évoqué tout à l'heure Tagriba existe encore comme chant, paraît-il, en Égypte. Je ne sais pas, ici au Maroc, je crois qu'on a perdu un tout petit peu, je crois qu'on n'a plus pas grand-chose.
Taghleba, c'est quoi? C'est l'épopée de ces gens-là?
C'est l'épopée. D'accord. C'est l'histoire d'Abou Zeyd el-Hilali, sa sœur Zazia ou Jazia. Il y a toute une histoire, une légende plutôt, qui est autour de cette Taghleba, donc de ce voyage vers l'Ouest.
Conquête de l'Ouest.
La conquête de l'Ouest, où il y a une histoire d'amour, une histoire de prison, une histoire d'alliance, une histoire de mariage, et en même temps, une histoire de conquête.
À chaque fois que tu nous racontes ce genre de choses, je pleure. Sur les films que nous loupons et les séries que nous manquons. Mais sérieusement, la matière est là quand même.
Non, entre la légende et l'histoire, il n'y a pas de problème, on en fait des films.
Bah, très peu chez nous.
Hein. Oui, mais quand on en fait très 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 mal. Parce que d'abord.
Quand je pensais aux films qu'on avait loupés, ils auraient été bons, hein, dans mon idée.
Non, je ne veux pas parler de. Bon, je veux dire, aujourd'hui, on enregistre, juste hier, qu'une chaîne a passé un film sur Mona Idriss, c'est la catastrophe totale. Je veux dire, ces gens-là. Ne prennent pas en considération qu'ils sont dans un pays qui s'appelle le Maroc, comme s'ils n'étaient pas marocains, et ils mettent en avant plus la question des légendes que de l'histoire réelle. Et je veux dire, on parle en long et en large, il suffit de le lire, et si on veut passer un message aux Marocains, c'est une chose, si on veut faire dans l'absurde, c'est une autre chose, et pas de problème, on peut faire un film dans l'absurde. Mais comme on est un petit peu dans un rapport assez ambigu, complexe avec notre passé,
et notre identité,
c'est pas encore le moment. Quoique, on peut justement, mais bon, il faut...
Ça vient. Les esprits s'ouvrent.
On peut espérer.
Revenons à donc l'arrivée des Beni Hilal vers l'ouest. Tu as parlé de Sétif. Je crois qu'il y a une bataille à Sétif, entre Zelal Mouhad et ces gens-là, c'est bien et ça
Yaqob le Mansour, je crois que c'est vers 1153, si je me souviens très bien. C'est-à-dire à partir du moment où ce groupement, au début, les Almohades étaient très contents. Parce que ça élimine deux conquérants, l'Ibn Ahmed et l'Ibn Urania qui s'installent, c'est le royaume Snahaja, qui s'installent du côté de la Tunisie, de l'Est, de l'Algérie, même en Tripolitaine.
Ils se font balayer par les Beni Hilal.
Oui. Ah oui, ils détruisent tout. Ils détruisent, mais juste pour réutiliser le bois pour faire de la cuisine. Ils ne s'installent pas, ils ne se sédentarisent pas, ils ne s'urbanisent pas, ils ne le souhaitent pas. C'est pas leur mode de vie.
Ils se servent, ils avancent.
C'est, jusque-là, on est dans la logique. Parce que nous sommes dans un système de nomades, et le nomade reste nomade. Jusque-là, c'est logique, il n'y a pas de problème. Donc, s'ils s'intéressent peu à toutes ces histoires d'industrie, de ville, d'urbanisation, de citadinité, etc., on est dans la logique et il n'y a rien de grave. Sauf qu'à un moment donné, les Almohades commencent à voir les troubles que ça allait leur imposer eux-mêmes. Et donc, du coup, Yaqob al-Mansour, on voit, je crois, son frère ou son fils, je ne me souviens plus, pour les battre dans cette fameuse bataille de Sétif en 1153. Et il essaie de ramener et de les diviser d'abord. Il ne les laisse pas ensemble. Il prend une bonne partie et il les amène au Maroc d'aujourd'hui. Et selon les documents, il les installe dans l'Habt, Azarar et Tamsna. Alors, l'Habt, c'est la région de l'Araïch aujourd'hui. Qsal Kbir al-Araïch, ils y sont toujours. Par exemple, je sais qu'il y a un groupement très bel qui s'appelle Khult. Ils y sont toujours. Azarar, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui le Gharb.
D'accord.
Teknitra, les plaines, etc. Et Tamsna, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui entre Salé et Asfi.
Alors, attends, je veux comprendre. Il y a une bataille entre les Almohades
et Ibn Hilal, Suleym et Maqil, les trois groupes.
Astif. Qui gagne?
Yaqob al-Mansour.
D'accord. Donc il les défait.
Il les défait, il les châtie, il les punit et il les...
On a des détails sur ces punitions, ces châtiements?
Oui, Ibn Khaldun s'arrête là-dessus. C'est-à-dire, bon, déjà le grand châtiment, c'est de les départager, de ne pas les laisser ensemble comme groupement parce que ça devient très puissant. Je dis, ils rentrent en alliance notamment avec les Znata. Donc les Znata, ils sont là, ils sont contents. Il y a un allié qui arrive du ciel et puis qui leur permet aussi également, parce que c'est des semi-nomades ou des nomades, donc ils ne sont ni Snahaja des Almoravides, ni Mouda des Almohades, ils sont contents. Mais la pire des punitions...
Les Znata qui vont devenir plus tard les Mérinides.
Les Mérinides, absolument. Mais le châtiment suprême, c'est de les, comment dirais-je, de les diviser, de les partager, de les dispatcher sur le territoire, de les désarmer et d'en faire une armée. C'est l'origine, paraît-il, de nos guiches, les tribus guiches. C'est à partir de ce moment-là que ces tribus d'origine hilélienne, grosso modo pour inclure les Suleym et les Maqil, sont devenues les tribus guiches des différentes dynasties qui se sont succédées à travers l'histoire du Maroc.
Alors, pourquoi ils ne les renvoient pas chez eux?
Ou chez eux? Je veux dire, ils viennent d'Égypte. Ils étaient déjà en Égypte. Je ne sais pas, ils ont passé peut-être 50 ans, plus ou moins, en Égypte. Pourquoi les renvoyer? Surtout, ils en avaient besoin. Ils avaient besoin d'armée. Yaqob al-Mansour, il est en perpétuel déplacement en Andalousie. Il est en train de se battre avec les...
Donc, il en fait une sorte d'armée.
Oui. Oui, les utilisant avec les Znata d'ailleurs, ils les utilisent dans ces guerres contre les royaumes d'Aragon en Andalousie.
Donc il se retrouve à guerroyer avec Yaqub al-Mansour
Tout à fait.
En Andalousie.
En Andalousie, son fils qui a perdu la bataille de l'Uqab, la Snabas de Tolosa, c'est une défaite, de la première défaite des Almohades et le début de la dégringolade des Almohades en Andalousie. Et bien, pour les punir un petit peu, il laisse les Bni Hilal en Andalousie et avec les Znata. Et bien, il commence à créer des troubles, il commence à devenir des coupeurs de route, à devenir une source d'instabilité en Andalousie. Et puis finalement, il les fait traverser, il les fait revenir dans les plaines du Larb, de l'Habt et de Tamsna, parce qu'ils sont devenus un problème qui s'est imposé en Andalousie.
Quand on a préparé ce podcast, tu m'as dit qu'Yaqub al-Mansour avait regretté de les avoir fait venir finalement.
D'après ce qu'on dit, oui, je ne sais pas, je ne suis pas allé jusqu'au bout pour voir ce que Ibn Khaldun lui dit. Il paraît qu'il a regretté trois choses dans sa vie. La construction de la ville de Rabat, c'est lui.
Puis bon, pourquoi il a regretté ça?
Je ne sais pas, parce que cette ville est restée vide jusqu'à l'arrivée des Morisco au XVIIe siècle.
Ouais, elle était conçue énorme et il y avait beaucoup de place vide. D'accord. Ouais. Deuxième regret.
Le fait de faire venir les Bani Hilal, Bani Sulaym, Aqil, et la troisième, j'ai oublié. Je ne sais plus dans quel contexte, je crois que c'est un rapport avec l'Andalousie, parce qu'il a compris qu'il a commis des erreurs stratégiques qui auraient des conséquences sur l'avenir du pays.
Alors, comment vous, les historiens, vous êtes capables de nous dire que Yaqub al-Mansour avait des regrets? Parce que moi, j'ai déjà du mal à imaginer des regrets sur des rois beaucoup plus récents. Alors c'est quelqu'un qui était en 1100.
Non, quand c'est rapporté par des textes.
Non, mais il écrivait ses pensées.
Pas lui, mais il y a des historiens qui ont écrit après lui, il y a des gens qui ont rapporté, des gens qui ont assisté à sa mort qui ont rapporté. Puis plus tard, on peut avoir un historien qui rapporte cela. Mais je veux dire, je crois que je l'avais lu quelque part, mais je ne sais pas si Ibn Khaldun la rapporte ou pas. Puis ça peut avoir du sens. Pourquoi? Parce que c'est comme les histoires ils vont apparaître dans l'histoire du Maroc, quand ils vont commencer. C'est comme les histoires de Abid al-Bukhari, ils vont commencer l'arbitrage des sultans, donc plus tard. Eh oui, parce qu'on a les fractions. Par exemple, quand on arrive à l'époque de Mansour Saadi, l'Ishbanat, c'est une fraction de Maqil.
D'accord.
Et c'est eux qui vont jouer un rôle déterminant, par exemple, quand les enfants de Mansour commencent à se batailler entre eux,
etc.
L'Ishbanat joue un rôle très important. Je veux dire, c'est des
s'ils soutiennent X par rapport à Y, ils bousculent les équilibres de pouvoir.
C'est les tribus guiches, c'est-à-dire c'est des gens militaires de carrière, si j'ose dire, avec des chefs qui étaient très impliqués dans le pouvoir et qui étaient des exécuteurs du pouvoir. Mais dès qu'il y a une nonchalance, une crise, un problème de succession, une dispute entre deux prétendants, je veux dire, c'est là qu'ils rentrent dans la mêlée et puis ils commencent à faire leur loi parce qu'ils ne pensent qu'en termes un petit peu de gains symboliques qu'ils pouvaient avoir, y compris le placement des enfants issus du mariage de leur propre fille avec les rois pour les mettre comme sultan par exemple. C'est classique. Mais en général, on a l'emplacement aujourd'hui de ces tribus d'origine hilalienne, Sulaym et Maqil, en général, ils sont autour des villes impériales ou des grandes villes, comme côté d'Oujda, côté de Fès, côté de Meknès, côté de Rabat, côté Marrakech, avec éventuellement le côté Taroudent. Donc, vous voyez, ces statuts de guiche collés à la protection des villes, les centres urbains de pouvoir, les lieux où les sultans, à travers toutes les dynasties, se déplaçaient un petit peu pour assurer la sécurité des routes ou éventuellement les mobiliser rapidement en cas de coup, comme pour ces histoires de guerre en Andalousie. Vous savez, les sultans, quand on suit la chronique, je dis, mais comment avec les moyen de bord. Je lui dis, bon, il était jusqu'à Valence, et puis tac, il est à Sebta, et puis de Sebta, non, il est à Tunis, et Tunis, non, il était à Stif, et puis à Stif, non, il est à Fès. Je veux dire, en un laps de temps, peut-être, je ne sais pas combien ça durait, une année, peut-être 2 ans, mais cette mobilité spatiale des sultans avec leur armée dans les différentes possessions de l'Empire, au point de se dire, mais avec les moyens de l'époque, je veux dire, comment il faisait de dromadaires pour la logistique, en tout cas, et encore pas en hiver, parce que les dromadaires, ça glisse. Les chevaux, les animaux de bain, les armes, les provisions, je veux dire, c'est tout une logistique, mais apparemment le système est érodé à ce genre de déplacement sans problème.
On parle donc d'une arrivée de tribus nomades hilaliennes, donc d'origine de la péninsule arabique, d'une grande masse d'individus en tout cas, vu qu'ils sont suffisamment nombreux pour se placer autour des villes impériales. Donc c'est des gens qui parlent arabe, bien sûr.
Il parle ce qu'on appelle le bidouin en arabe, une version bidouine. Ibn Khaldoun nous détaille un petit peu le modaria, les différents types, le yéménite, les différents types de parler qui existaient en Arabie, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'arabe classique, mais en tout cas, c'est des variantes entre l'aramien, l'hébreu, l'arabe, c'est-à-dire une mixture. Je lisais un document ce matin d'un Libanais de confession chrétienne qui a bourlingué entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, quelqu'un qui précise dans sa notice qu'il parlait 22 accents de l'arabe, juste entre la Syrie, l'Irak, la Palestine et l'Égypte. Donc vous voyez, si on a 22 accents, ça veut dire quoi? 22 parler, 22 dialectes, 22, etc. Nous sommes au début du XXe siècle.
D'accord, donc revenons au XIe siècle. Est-ce qu'on peut dire que l'arrivée de ces Hilaliens sont la plus grosse arrivée de population d'origine d'Arabie au Maroc, bien supérieure à ce qu'il y a eu pendant les Omeyyades?
Certainement. Après les Omeyyades, bon, on avait dit que c'était un peu la boule de neige, c'est-à-dire des tribus qui sont... Comment dire, en tout cas, on avait vu qu'avec la conquête, c'était une sorte de
boule de neige.
Boule de neige qui venait vers l'Égypte. Les Égyptiens ont conquis la Cyrénique, les gens de la Cyrénique ont conquis la Tripolitaine, les gens de la Tripolitaine ont conquis ce qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie, ainsi de suite jusqu'à chez nous. Et puis même ici au Maroc, on a conquis l'Andalousie, les Andalous qui ont conquis vers le nord et ainsi de suite. Et après la défaite des Omeyyades, il paraît que la majorité des armées des populations originaires d'Arabie ou du Cham ont quitté la région. Il en restait quelques petits groupements apparemment insignifiants. Là, au XIIe siècle, effectivement, nous avons un gros phénomène démographique qui a eu lieu. Alors, sur quelle échelle on peut imaginer un petit peu le nombre de la population en époque? On n'a pas d'indicateur. Je veux dire, avec les épidémies, les famines, les sécheresses qui ont eu lieu entre cette période et la période contemporaine, on peut aussi calculer les pertes démographiques. Mais ce qui est très important aussi, c'est que toutes ces tribus au début d'origine étrangère se mixent d'abord avec l'Isnata et puis au fur et à mesure se mixent avec les différents groupements tribaux qui se trouvent dans l'ensemble du territoire, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc, au Mali, etc., dans le Grand Désert, parce que Ibn Khaldoun précise qu'une fraction, par exemple, ce qu'il appelle les Arabes de Sousse, c'est ce qu'on appelle, qui est une fraction des Bani Maqil, qui nous a donné les Ibn Hassan, dont une partie fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle les populations du Sahara et de la Mauritanie, y compris le nord du Mali. C'est-à-dire que c'est une fraction de tribus qui s'est mixée avec ce qu'on appelle les Touaregs, et donc du coup ça nous a donné une population saharienne qui habite le Sahara du côté de l'Atlantique jusqu'au Mali, et Ibn Khaldoun le signalait déjà. Alors ces groupements vont jouer des rôles très importants plus tard avec l'émergence des Alaouites, Moulay Ismaïl, et comment il va les utiliser pour casser la confédération tribale qui contrôlait un petit peu le Sahara à l'époque et le commerce transsaharien qu'on appelle la confédération de Tajaquint, ceux qui ont bâti Tindouf. Mais revenons un petit peu à cette époque également, de l'époque Al-Mouhad, je veux dire la fonction des tribus guiches, militaires essentiellement. Ensuite, avec l'arrivée des Mérinides, ça va être exactement la même chose, mais entre-temps, il y a une mixité qui s'est installée. Parce que vous savez, l'indicateur en anthropologie aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'assimilation des populations, c'est la relation de mariage. Et là, ça y va entre les différents groupements tribaux installés partout au Maroc, en Andalousie, au Maghreb, d'une manière générale, au Sahara, où les mariages vont faire leur travail et du coup, la mixité des différents groupements qui va avoir lieu. Aujourd'hui, si on peut chercher quelles traces restent encore, je veux dire, de ce que les Hilaliens, les Suleym et les Maqil ont amené au Maroc, à part peut-être les différents accents qui distinguent les trois groupes, d'ailleurs, aujourd'hui, dans les différentes régions du Maroc, peut distinguer la Darija de la région de Enged, par exemple, par rapport à Al-Khalt, par rapport à Al-Gharb, par rapport à Seis, par rapport au Sahara, ont différentes manières de parler, mais les accents sont là, très déterminant pour donner à chacun une identité territoriale, parce que ces accents-là se sont greffés sur les accents des langues d'Isnahaja, d'Isnata et des Smouda qui nous ont donné aujourd'hui ce qu'on a au Maroc. Mais sinon, en termes d'habits, d'habitudes, d'habitudes culinaires, d'habitudes culturelles, des choses qui distinguent aujourd'hui, comment distinguer un Hilalien d'un Masmoudi ou d'un Znati, il serait difficile, tout simplement parce que le phénomène d'acculturation a fait son travail pendant plus de 8 siècles et ils ont complètement adopté les cultures, les mœurs, les habitudes culinaires, la manière de s'habiller, les cérémonies, les mariages, la circoncision, le deuil. C'est les indicateurs que les anthropologues utilisent en général pour distinguer un groupe d'un autre. Et c'est là que je veux ouvrir la parenthèse sur toute la recherche coloniale qui a joué sur les mots pour parler de la conquête arabe et de la domination arabe en confondant deux périodes, la période omayyade et la période de l'arrivée des Hilaliens comme des premiers groupements immigrés, entre guillemets. Et la recherche coloniale a créé une confusion en jouant sur les deux périodes d'abord et ensuite en mettant en exergue comme une sorte de domination arabe sur ce qu'ils appelaient les berbères et du coup pour nous créer la dichotomie coloniale pour justifier juste une chose très 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 simple et très bête. C'est que si les Arabes sont conquérants, si les Ottomans les ont suivis comme conquérants, nous sommes aujourd'hui conquérants, donc nous sommes dans un pays éternellement conquis.
Oui, enfin, jamais... jusqu'aux Romains, carrément.
Oui, jusqu'aux Romains. En tout cas, notre conquête aujourd'hui n'a fait qu'enlever un autre conquérant.
D'accord,
et donc, on a rien fait de mal.
Je vais dire la même chose que toi avec d'autres mots, parce que moi, je viens de plus loin encore que ça, en termes de connaissances. C'est pas tout le monde, en tout cas, je n'en fais pas partie. C'est pas évident pour tout le monde que les Almoravides sont des Snahaja, que les Almohades sont des Msmouda, que les Mérinides sont des Znedas. Voilà, c'est-à-dire que la façon dont on te le présente, tu as quand même l'impression que c'est des dynasties qui viennent de l'Est.
Oui.
Alors que ce sont des dynasties locales. Et que dès le départ des Omeyyades, on a eu des pouvoirs locaux très, très tôt.
Total, la dernière fois, en tout cas pour nous au Maroc, on a perdu la souveraineté, c'est avec l'arrivée du colonialisme au XXIe siècle. Entre les Omayyades et le XXe siècle, je veux dire, hein, quand même.
La capitale du Maroc était au Maroc.
Absolument.
Merci Mustapha Khadili, on a parlé de beaucoup de choses, vous avez compris, on y voit un petit peu plus clair sur l'arrivée des Beni Hillel, qui ont été une composante importante de notre espace géographique, n'est-ce pas?
Absolument, voilà. Historique.
Historique. Et les tribus guiches, qui, si j'ai bien compris, étaient une sorte de garde rapprochée du sultan, c'est
absolument.
Bien ça?
À travers toutes les dynasties.
Voilà, une sorte d'armée.
Absolument.
Une sorte d'armée à travers toutes les dynasties, qui ont été basées sur ces tribus Beni Hillel.
Oui, le guiche.
Des guerriers.
Quand on dit le guiche, on dit le giche.
Le giche. Ah oui, d'accord, je n'avais pas fait le lien.
Switching phonétique.
Il m'avait dit ça il y a une heure, j'aurais plus vite compris. Merci les amis, à la prochaine pour un nouveau podcast Histoire.
Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.